Dans l'actualité des idées aujourd'hui, Rwanda, un génocide à hauteur d'enfants. On en parle avec notre invitée, l'historienne Hélène Dumas, chargée de recherche au CNRS. Ses travaux sont consacrés depuis longtemps à l'histoire du massacre des Tutsis rwandais de 1994, 6 ans après le génocide au village paru au Seuil, où elle analysait la proximité géographique, sociale et familiale des bourreaux et de leurs victimes. Elle publie aujourd'hui « Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis », un ouvrage qui paraît à la découverte. Une nouvelle lecture de ce drame à partir des cahiers d'écoliers remplis de ces mots d'enfants ayant vécu et survécu au massacre. Il raconte, ces enfants, la vie d'avant, la vie pendant et la vie d'après. La vie pendant, c'est 3 mois entre le 7 avril et la mi-juillet 1994. 3 mois où les 3/4 de la population Tutsi est assassinée. 3 mois où ces enfants ont simplement rencontré la mort. Bonjour Hélène Dumas.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Ces témoignages d'enfants entre 8 et 12 ans au moment des faits ont été consignés sur des cahiers d'école. À qui revient cette initiative de les faire se raconter, d'avoir choisi de consigner ces témoignages et de les avoir archivés pour la mémoire et puis pour l'histoire, hein ?
Oui, alors c'est une initiative d'une des plus grandes associations de rescapés du génocide au Rwanda qui s'appelle AVEGA, l'association des veuves du génocide d'avril. Cette ONG rwandaise a organisé un atelier d'écriture en avril 2006, réunissant une centaine d'orphelins de la région de l'Est du Rwanda, donc recouvrant les anciennes préfectures de Kibungo, Kigalingari et Byumba, et les a encadrés en quelque sorte pour qu'ils puissent coucher sur ces petits cahiers d'écoliers leurs souvenirs terribles du génocide, mais aussi de la vie d'avant, et puis de ce long après-coup, hein, de cette vie avec le génocide, jusqu'en 2006.
Voilà, alors c'est 2006, c'est 12 ans après le drame, la tragédie, le massacre. Ils ont 8 et 12 ans environ au moment des faits, entre 8 et 12 ans, donc une vingtaine d'années au moment où ils écrivent sur ces cahiers ce qu'ils ont vécu. Leur mémoire est encore intacte de ces événements, de ce que vous en avez lu et vu.
Oui, ce qui était très frappant dans ces textes, c'est l'hypermnésie de ces rescapés qui décrivent avec une précision terrifiante ce qu'ils ont subi, ce dont ils ont été témoins pendant le génocide, les manières de se cacher, de se nourrir, la mort de leurs proches, et puis également l'aspect très concret, hein, des descriptions de la vie d'avant, de l'assignation raciale à travers les recensements ethniques à l'école, et puis toutes les persécutions qu'ont subi leur famille entre 1990 et 1994. Et donc ces enfants, ces anciens enfants écrivent au présent du génocide, et c'est ce qui fait de cette écriture une écriture tout à fait particulière qui nous fait rentrer dans la chair du génocide et qui permet d'écrire une histoire incarné de cette tragédie.
Et vous, comment vous avez connaissance de ces cahiers? Comment vous choisissez à un moment de vous rendre là-bas, de les ouvrir, de les analyser? Comment vous avez procédé pour cette enquête historique?
Oui. C'est comme à de nombreuses occasions au Rwanda, ces travaux résultent de rencontres. Et là, c'est une rencontre hasardeuse, puisque je n'avais pas prévu de travailler spécifiquement sur le sort des enfants pendant le génocide. Mais en rangeant la bibliothèque donc de la Commission nationale de lutte contre les génocides, qui est la principale institution publique chargée de la mémoire de l'histoire du génocide au Rwanda, se trouvait dans un fatras d'archives audiovisuelles, ces petits cahiers. Je les ai rassemblés, photographiés et ensuite traduits avec l'aide de deux Rwandais rescapés également, pour pouvoir rentrer véritablement dans l'intimité de cette expérience si singulière.
Ils sont où maintenant, ces cahiers ?
Ces cahiers se trouvent toujours à la Commission nationale de lutte contre le génocide.
Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait d'un de ces témoignages recueillis donc et garder aujourd'hui à l'intérieur de ces pages, de ces cahiers que vous avez retrouvés?
Oui, alors c'est un extrait d'un témoignage d'un jeune garçon. Voilà ce qu'il écrit. « Tu voyais une journée comme une semaine à cause de ta peine. de la faim et de la soif, car tu venais de passer plusieurs jours sans manger. Les cris de douleur emplissaient l'air. Les sifflets des Inhramwe, beaucoup de cadavres, rencontrés dans la bananeraie, sur les collines, dans les ruines, sur les chemins, à la rivière, partout où tu pouvais te rendre. Le cœur vagabondait. Tu te demandais si la nuit allait enfin tomber. Ici, j'en profite pour dire que quand la nuit tombait, tu sentais un peu de répit et tu pouvais prendre un semblant de repos, même si tu ne trouvais rien pour apaiser ta faim. Entre-temps, le Tutsi était devenu l'ennemi. Il était chassé de manière très minutieuse, sans relâche, à l'aiguille. Même si tu allais chez ton voisin Hutu lui demander qu'il t'ouvre sa porte, il ne pouvait pas te l'ouvrir, mais il poussait une clameur contre toi en disant « Quitte chez moi, je n'ai pas besoin de serpent chez moi ». Alors que vous viviez bien ensemble avant, alors que vous partagiez le cuit et le cru, alors que vous vous demandiez du feu, du sel et du pétrole. Mais quand ce temps est arrivé, il t'a chassé, il t'a laissé dans tes malheurs. C'est misérable. Nous avons trait nos vaches pour eux. Nous les avons nourris et c'est devenu comme dit ce proverbe. Ceux auxquels le roi a donné du lait sont ceux qui ont refusé de l'écouter.
Voilà, vous racontez de leur part un vrai besoin de témoigner, d'écrire leur histoire, de laisser une trace pour ceux qui leur succéderont. Pourquoi un plus jamais ça, pour que personne n'ait à revivre une seconde fois une telle souffrance, celle qui est réunie dans tous ces témoignages. Les aider aussi à sortir du statut de victime, à agir, à revivre ce qu'ils ont vécu pour peut-être pouvoir enfin l'éloigner d'eux. Et vous le disiez, ces récits a posteriori sont des récits au présent. Et on peut pas aborder ces textes et cette histoire sans comprendre que ces enfants devenus plus grands se revivent dans l'écriture comme les enfants de 12 ans qu'ils étaient. Il y a ces mots de ce garçon que vous venez de citer, Hélène Dumas. Entre-temps, le Tutsi était devenu l'ennemi. Entre-temps, ce que l'on comprend aussi très vite, c'est que ce renversement du monde, de leur monde, va se jouer en peu de temps. Avant, il y avait la famille, la vie, la musique, le bonheur, comme le raconte le rappeur et auteur du roman Petit Pays, Gaël Faye. Ça, c'était le moment des jours heureux. Démocratique.
Allumer la radio et le rythme entraînant de la chanson de Papa Wemba a aussitôt envahi l'habitacle. Les cousins se sont mis à gigoter et Christian m'a regardé d'un air malicieux en soulevant ses sourcils et en remuant les épaules comme un danseur éthiopien. Au refrain, les filles chantaient. Cela amusait maman qui se retournait pour me jeter des clins d'œil complices. Un animateur de la radio faisait le clown, chantait par-dessus la musique. Je ne comprenais que certains mots dans ces phrases en Kinyarwanda. Radio 106 FM, radio sympa, Papa Wemba. Sur un ton enjoué, il reprenait le refrain, parlait, plaisantait. Un vrai zouave à l'antenne. Je m'étais prise au jeu. Moi qui pourtant détestais danser, je me trémoussais, frappais des mains n'importe comment et chantais « avec enthousiasme. Quand soudain, j'ai remarqué que plus personne ne bougeait. Les visages des cousins avaient changé d'expression. Christian était figé. Tante Sébille a brusquement éteint la radio. Plus personne ne parlait dans la voiture. Sans voir le visage de maman, je sentais son malaise. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Des bêtises. C'est l'animateur de la radio. Et qu'est-ce qu'il disait ? Il a dit que tous les cafards doivent périr. Les cafards ? Oui, les cafards. Ils utilisent ce mot pour parler de nous, les Tutsis.
Hélène Dumas, à travers ce témoignage écrit de Gaël Faye, un livre qui lisait là quelques lignes de son livre « Petit pays » et qui a vécu cette situation aussi, on voit bien que les enfants interprètent, et c'est ce que vous montrez, la menace aussi à travers l'inquiétude des adultes. Hein. Il évoque ces changements d'expression, ces visages qui se crispent. Tout à coup, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Hein.
Oui, c'est ce qu'il raconte très bien, ces orphelins, dans leur texte. C'est qu'au soir du 6 avril, au matin du 7 avril, ça dépend des régions, le premier changement qu'ils perçoivent, c'est l'assombrissement du visage des pères en particulier. Il y a une jeune fille qui dit qu'elle avait toujours cru son père invincible et que pour la première fois, elle le voit effrayé et au bord des larmes. Et c'est cette inquiétude qui se lit sur le visage des adultes, qui pour les enfants est la première interprétation de la menace. Parce qu'évidemment, ils ont certes subi les persécutions avant le génocide, les fouilles pour à la recherche de soi-disant armes du FPR, puisque tous les Tutsis étaient considérés comme des alliés ontologiques du Front patriotique rwandais. Mais d'imaginer que tous les Tutsis allaient être exterminés, c'était évidemment inconcevable. Et la première perception du danger, c'est le changement d'attitude sur le visage des parents, et en particulier des pères et des oncles.
Et vous le racontez aussi tout au long de ces terribles et longues journées, les adultes vont petit à petit être disqualifiés malgré eux. Hein. Ils sont menaçants pour certains quand ils vous traquent, et ils sont impuissants pour les autres, impuissants à empêcher ce massacre. Hein.
Oui, et c'est regarder le génocide des Tutsis depuis l'univers de l'enfance, c'est véritablement le regarder autrement, puisque pour ces enfants, c'est l'effondrement de leur monde, leur monde qui est aussi organisé autour des adultes, et tout d'un coup ce monde des adultes se transforme soit en menace mortelle ou bien ces adultes deviennent impuissants à les protéger. Et ce qui était aussi intéressant dans le texte, c'est qu'on voit que les premières stratégies de survie qui sont mises en œuvre par les adultes redoublent le danger auquel ils s'exposent. Je pense particulièrement aux papas, puisqu'ils les appellent comme ça, les papas c'est les oncles et les pères. Dans un premier temps, tentent de défendre leur bétail, défendre leurs biens contre les attaquants, contre les Ibitero, ces bandes d'assaillants qui se forment souvent très vite sur les collines et qui, de ce fait, sont assassinés parmi les premiers.
D'où aussi, parenthèse, un peu l'intérêt pour l'historienne, c'est-à-dire de regarder, de changer le prisme, changer le regard qu'on peut avoir aussi sur ce moment, sur cette tragédie, ce moment de l'histoire aussi. Vous dites que le regard des enfants, c'est un regard microscopique, c'est un regard qui permet aussi de regarder à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'un individu, et que ce parti pris-là, cette optique avait été assez peu adoptée jusqu'ici. En tout cas, c'est pas ce qu'on retrouve dans les tribunaux, notamment.
Oui, alors je reprends cette expression de regard microscopique de l'enfance à Gaëlle Faye précisément, et je trouve qu'elle est très juste, parce que non seulement on se place à une échelle microscopique puisqu'on est à l'échelle des subjectivités individuelles, mais aussi des familles, et d'autre part les enfants, ces jeunes orphelins, déploient une observation microscopique de ce qui se produit pendant le génocide, et ça en fait une source extrêmement précieuse pour décrire l'exécution du génocide sur les collines.
Et néanmoins, ces témoignages, vous ne les livrez pas bruts, Hélène Dumas. Pourquoi ? Pourquoi cette parole seule ne suffisait pas à comprendre ? Pourquoi vous avez-vous ressenti ce besoin de recontextualiser, d'expliquer ?
Alors, c'est une histoire du génocide qui est proposée ici à travers le récit des enfants. Une large place donc est accordée à leurs paroles, puisque le projet éditorial aussi de la collection à la source permettait cette centralité de l'archive. Pour autant, donner à lire de manière brute ces textes me paraissait difficile, dans la mesure où cette histoire est encore très mal connue en France, et qu'il m'a semblé important d'accompagner le lecteur, toujours en retrait, en tout cas je l'espère, rentrer plus finement dans la lecture et surtout dans la compréhension de ces textes.
C'est un rapport à la vérité aussi qui se joue là pour vous à travers ces témoignages, c'est-à-dire qu'il faut, pour recomposer cette vérité-là, historique, peut-être mélanger les prismes, s'appuyer sur l'un tout en apportant d'autres éclairages.
Oui, je crois que c'est important de porter une analyse plus globale pour effectivement avoir des effets de véridiction, ce qu'on cherche en histoire. Et surtout, ce qui me semblait très important, c'était de prendre au sérieux ces paroles-là, de les prendre très au sérieux et de les hisser au rang de véritables sources historiques, que ces récits d'enfants qui sont absolument terrible ne soit pas seulement comptable des discours de la commisération, mais qu'il soit lue comme une véritable source d'information sur l'histoire du génocide des Tutsis.
Et comment ne pas les prendre au sérieux ? À travers ce récit, on comprend que soudain, tout a basculé dans les mots qu'avait Gaëlle Faye à l'instant. En quelques jours, on voit arriver le surgissement de l'horreur. La plupart d'entre eux ont perdu leurs parents, puisqu'on parlait aussi de ce rapport aux adultes. Ils ont dû fuir leur village à travers les collines, se cacher des semaines dans les marais. C'est un paysage sans refuge qui va tout à coup se dessiner autour d'eux, les maisons, les collines, les voisins, les bananeraies, les marais. Et puis, comme à Oradour-sur-Glane, on a cette image en tête, on réalise à travers ces témoignages que même des lieux comme la maison, bien sûr, mais aussi l'église, qu'on pensait être des sanctuaires, qu'on pensait pouvoir protéger, eh bien non. Écoutez le témoignage de Clavel, il avait 8 ans au moment des faits, il est devenu depuis sportif paralympique.
Un jour, c'est arrivé comme ça, ça a éclaté et puis on a commencé à se cacher des gens qui voulaient tuer tout le monde. Donc moi, les Hutus et les Tutsis, je ne fais pas la différence. Je pensais que l'église, c'est un lieu qui pouvait protéger, quoi, que les gens ils n'oseraient pas rentrer à l'intérieur. Ils sont rentrés dedans, ils ont tué tout le monde. J'ai vu, devant moi, il y a eu 2 personnes qui ont été massacrées. C'était mes grands-mères et puis un oncle qui était un peu plus loin, qui avait le ventre ouvert. J'ai pris une couverture, j'ai mis par-dessus moi et puis je suis resté 4 jours comme ça, sans manger, sans boire.
4 jours, Hélène Dumas, ça paraît énorme. Mais ce qu'on réalise aussi à travers tous ces témoignages, c'est que l'horreur plonge les hommes, les femmes, les enfants hors du temps, en fait, aussi. Ça suspend le temps.
Ça, c'est véritablement ça, c'est une suspension du temps. Et dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, il dit « Tu voyais une journée comme une semaine ». Ce rapport au temps est vécu dans un étirement infini, y compris dans l'après-génocide, puisque lorsqu'ils écrivent, lorsqu'ils prennent la plume en 2006, ils sont encore dans le temps du génocide. Cette expérience est chevillée à leur existence matérielle, à leur souffrance psychique. C'est véritablement un génocide qui a été très bref et très efficace. Il faut pouvoir le considérer dans ces temporalités longues en amont et en aval de 1994. 4 jours dans les cadavres, comme le raconte Claver Caritaire, c'est évidemment une expérience qui suspend le temps à l'infini.
Et la cruauté, c'est aussi cette chasse à l'homme qui va se mettre en place. Les chiens à grelots, la traque, les pierres jetées dans les marais pour faire sortir ces enfants. C'est vraiment un temps où la déshumanisation est à l'œuvre.
Oui, et ce qui est intéressant dans ces textes, c'est que la déshumanisation, elle est vécue à la fois par les tueurs et par les victimes. Les tueurs organisent de véritables battues. Ces chiens à grelots, ce sont précisément des chiens de chasse. Les massacres sont organisés comme de véritables parties de chasse. En témoignent les modalités par lesquelles les tueurs font sortir effectivement les victimes des champs de sorgho ou des marais. Cette chasse à l'homme, fait partie du processus de déshumanisation. Et bien des enfants se décrivent comme un gibier traqué ou bien comme du bétail que l'on abat. Et il y a un terme qui revient très souvent, c'est kubaga. Kubaga, c'est un terme qui est lié à la boucherie, ça veut dire abattre, et qui, en principe, en Kinyarwanda, ne s'emploie pas. Pour les êtres humains. Mais il y a une sorte d'abolition, si vous voulez, de la frontière entre l'homme et l'animal. Mmh. Et ça, c'était très, très, très bien décrit dans les textes. Et je l'ai pas lu de manière aussi nette dans d'autres récits.
Alors, ce qui ajoute encore à l'horreur, et puis, c'est que vous montrez aussi qu'il y a la cruauté des hommes dans ces moments-là. Mais en plus, il y a un théâtre de la cruauté, c'est-à-dire que pour beaucoup de ces tueurs, il y a aussi l'intention de mettre en scène, en fait, cette mise à mort. Comment on se l'explique ?
Alors, je reprends cette expression de théâtre de la cruauté à Denis Crouzet, puisqu'il y a des analogies très, très intéressantes à mener entre les guerres de religion et ce qui se produit au Rwanda en 1994. Pendant le génocide, le programme politique du génocide, ce n'est pas seulement, si je puis dire, d'exterminer les Tutsis, de les tuer, mais c'est aussi de les faire souffrir, de les avilir, de les humilier. Et ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est que ce génocide est à la fois très bref, mais les mises à mort sont très longues. Parce que, il y a cet exercice de la cruauté sur les corps à laquelle on ne peut pas échapper, on ne peut pas dérober notre regard, précisément parce que la cruauté est politique. C'est par la cruauté que s'imprime l'imaginaire raciste sur les corps des victimes.
Il y a 25 ans, le journaliste reporter Daniel Mermet, avec Jérôme Bastion, ils étaient les premiers tous les deux à découvrir un charnier, celui de Niaroubouyé, 40 jours après le massacre. Et parmi les corps, une jeune fille encore vivante, Valentine, un reportage, un témoignage paru dans l'émission, diffusé dans l'émission Là-bas si j'y suis sur France Inter.
Il y a un enfant vivant.
Au milieu de tous ces cadavres, viens.
Ça fait un mois et demi qu'il est là.
Un mois et demi. Oh, elle est là, elle vit là. Je ne sais pas si c'est une petite fille, c'est peut-être une femme. Elle est en train de... Elle a un petit miroir. Elle a des genres de patates. Elle a de l'eau. Elle a un tout petit bout de tissu sur elle. Elle est... C'est invraisemblable ce qu'on voit, c'est invraisemblable.
Elle vient de protester, elle dit, vous me prenez ma nourriture, donc tiens beaucoup à cette nourriture parce qu'elle a vécu une situation où il n'y avait plus pratiquement rien.
Mais depuis combien de temps elle est là?
Justement.
Depuis le massacre?
Depuis le massacre. C'est vers la date du 14, 16 comme ça.
Depuis 14 avril. Et on est le 27 mai.
Finalement.
Donc, voilà, il la porte dans la couverture. Et... Elle tient beaucoup à sa nourriture. Elle a demandé... Il y a un pied par terre. C'est macabre. C'est du délire. C'est fou. C'est une folie. C'est...
Un témoignage qui a marqué et qui nous fait revivre à travers ces mots aussi cette découverte par ces deux journalistes de Valentine qui va bien mieux aujourd'hui, qui est là encore parce que ses enfants ont survécu, ils ont survécu au pire. Mais ce que vous racontez aussi, c'est que dans ces moments-là, il y a quand même des écosystèmes de survie qui se mettent en place. Il y a une solidarité des enfants entre eux aussi qui a joué.
Oui, et... Il n'y a pas que de la survie, il y a de la vie, puisque c'est dans des conditions terribles. Il y a plusieurs témoignages, d'ailleurs, dans le livre qui font référence à la manière dont une dizaine de rescapés ont survécu dans cette paroisse de Niaroubouyé, avec effectivement très peu de nourriture, en se cachant sous les cadavres en décomposition et pariant sur l'odeur méphitique dégagée par ces cadavres pour repousser les assauts des tueurs. Dans ces conditions absolument terrifiantes, les enfants élaborent des stratégies de survie, échafaudent des mensonges pour échapper aux tueurs, tentent de s'organiser pour se nourrir, pour soigner comme ils le peuvent avec quelques plantes médicinales les blessures. Il y a toute une intelligence, si vous voulez, de la survie qui est en réalité de la vie, qui se manifeste aussi dans ces récits.
Toi qui liras ce témoignage, tu sais que pendant la guerre, les serpents ont été nos amis. Nous avons passé du temps avec eux dans les trous qu'ils avaient creusés. Nous avons passé les nuits dans les brousses qu'ils habitaient. Nous avons croqué leur nourriture. Nous avons léché la terre où ils avaient laissé leurs traces. Nous avons déterré les patates douces comme des taupes. Je parle des serpents parce qu'eux ont su que nous étions leurs frères. Ils ont été de bons voisins pour nous au moment où les humains, comme nous, nous ont abandonné. Témoignage extrait de ce livre où vous avez recueilli des paroles orphelines d'enfants, des paroles d'enfants qui ont connu, vécu le génocide des Tutsis. Le livre s'appelle Le Vôtre, Hélène Dumas, Sans ciel ni terre, et il a paru à la rentrée à la découverte dans la collection À la source. On est ensemble encore pour une dizaine de minutes. On va évoquer peut-être ensemble l'après, maintenant. France Culture, il est 13h20.
France Culture. La grande table, Olivia Gesbert.
La vie d'avant, la vie pendant, la vie d'après, Hélène Dumas, que sont devenus ces orphelins aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus parce que je ne les ai rencontrés que par le biais de ces cahiers, j'espère, dès que je pourrai repartir au Rwanda, me lancer dans une quête à la fois un petit peu angoissante et que j'espère la plus délicate possible pour tenter de les retrouver et de discuter avec eux de ce qu'ils ont écrit 14 ans avant, parce que ce qu'ils écrivent sur l'après-coup du génocide, finalement, c'est un récit du désespoir absolu. Et il est vrai que lorsque l'on traduisait avec Gervais ou Émilienne, on avait presque hâte que le FPR arrive pour arrêter les massacres et retirer ses enfants des charniers, en se disant que peut-être après on aurait un récit de reconstruction, de résilience. Mais lorsque les récits s'ouvraient sur cet après-coup, c'était le récit d'une déréliction absolue, parce que c'est une vie dans une vie de perte. Voilà, c'est l'épreuve de la perte, l'épreuve des difficultés matérielles considérables qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Sont des jeunes qui se sont retrouvés sans abri, parce que toutes les maisons des Tutsis ont été rasées pendant le génocide, hein. C'est une manière d'effacer le souvenir des Tutsis, des paysages même. Sans abri, sans adultes pour les protéger face à la rapacité d'éventuels membres de la famille revenus de leur exil au Burundi, au Congo. Et aussi, impossibilité d'avoir des adultes auprès d'eux pour les protéger de l'hostilité permanente et continue du voisinage.
On va écouter le témoignage, un dernier, celui de Joël Karekazi, qui parle de cet après tel qu'il l'a vécu, le cinéaste rwandais qui avait 9 ans au moment du génocide contre les Tutsis.
J'avais 9 ans quand le génocide contre les Tutsis a éclaté en 1994. Mon père était parmi les 800 000 personnes massacrées pendant ce génocide contre les Tutsis. Le génocide contre les Tutsis a été une tuerie entre voisins. Ils utilisaient des machettes, des coups de feu. Les coupables, ils ont été jugés et emprisonnés. Après quelques années, quand ils ont été libérés, ils sont allés vivre dans les mêmes villages, mêmes montagnes, tout près de leurs victimes. Pour essayer de recréer les liens, le gouvernement rwandais a mis en place la politique d'unité et réconciliation. Les génocidaires ont été sensibilisés pour accepter et demander pardon à leurs victimes. Les gens, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble. Le passé n'est pas oublié, mais les liens se construisent petit à petit. Pour moi, je pense que le pardon, c'est pas vraiment facile, mais c'est nécessaire pour le bien de la nouvelle génération, pour qu'ils puissent vivre en paix.
Mungu yakuremye guhagaritse wambitswe kambura kamirizwe.
Voilà ce chant qui dit « C'est une belle journée, nous avons fait un pas en avant et nous n'avons pas trébuché ». Cette question du pardon, on imagine qu'elle est, Hélène Duba, centrale dans l'après. Hein. Est-ce que ça, c'est un travail qui a commencé ?
Alors, en tout cas, ce qui m'a surprise dans les textes, c'est qu'ils sont très politiquement incorrects vis-à-vis de ces politiques de réconciliation nationale qui sont menées au Rwanda, puisque le pardon est très peu évoqué. Il y a surtout des expressions de colère, hein, vis-à-vis de ceux qui ont été les auteurs de ces amputations familiales immenses, de cette dévastation matérielle et humaine. Alors, et c'est là aussi où ces sources sont extrêmement précieuses, parce que elles permettent de distinguer le temps politique des grandes politiques de réconciliation nationale, les politiques judiciaires aussi qui ont été mises en place après le génocide, et puis le vécu subjectif, hein, des rescapés, qui pour lesquels il y a une forme de dissonance, hein, vis-à-vis de ces politiques de réconciliation nationale. Donc il y a les deux échelles, à la fois l'échelle politique et puis les échelles individuelles qui se heurtent ici, parce que le Rwanda présente cette singularité très forte. Les victimes et les tueurs doivent revivre dans un même pays. C'est quand même une configuration très particulière, et parfois même sur les mêmes collines.
Oui, parfois même dans un même village, hein, ce qui était l'objet aussi de votre premier ouvrage,
voilà.
Hélène Dumas. Il y a en ce moment en France une commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis, qui est en train de travailler avec un rapport qui devrait être mis au printemps prochain. Elle a été montée en avril 2019. Vous n'en faites pas partie. Vous le regrettez, Hélène Dumas ?
Pas vraiment, parce que mon travail ne porte pas précisément sur l'histoire de l'implication française au Rwanda entre 1990 et 1994, et que je tiens à ancrer mon travail d'histoire au Rwanda, dans les archives rwandaises, dans les paysages du Rwanda, et que si j'avais intégré cette commission, cela m'aurait tenu éloignée du Rwanda trop longtemps.
Mais vous serez attentive aux résultats, aux rapports de cette commission ?
Bien sûr, ce sera très intéressant de voir ce qui a été mobilisé en termes archivistiques dans le rapport, et surtout ce qu'on espère, la communauté des historiens et des chercheurs, c'est que ce rapport sera un premier jalon vers une ouverture plus générale de ces archives, vers une dérogation générale, afin que tous les chercheurs, même en dehors de ceux qui ont été choisis dans cette commission, eh bien, puissent travailler sur cette histoire française, cette histoire franco-rwandaise, qui me paraît extrêmement, extrêmement importante.
Voilà, histoire qui continue à s'écrire. Le président, hein, Emmanuel Macron, dit espérer se rendre en 2021 au Rwanda dans un long entretien qu'il a accordé le mois dernier de mémoire à Jeune Afrique. Le Rwanda, pays avec lequel les relations se sont quand même un peu réchauffé ces dernières années. Est-ce qu'il est très attendu là-bas ?
J'ai le souvenir de la visite de Nicolas Sarkozy en février 2010. J'étais au Rwanda à cette époque et j'ai été très surprise de voir Kigali pavoisé de drapeaux français, ce qui témoignait quand même d'une attente particulière au Rwanda de la parole française. Je ne sais pas.
Voilà, là, c'était les symboles, mais peut-être aussi d'une parole. C'est ce que vous
voilà, dites. Voilà, d'une parole. L'attente d'une parole particulière. Ouais. Est-ce que cette attente est toujours présente? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'il y a une forme de lassitude aussi au Rwanda, vis-à-vis de cette question. Peut-être qu'il y a aussi, ça va, peut-être que cette venue générera de nouveau, réveillera cette attente d'une parole forte du président français, parce que je rappelle que les autorités belges, dès avril 2000, ont présenté leurs excuses au peuple rwandais pour leur rôle, évidemment, pendant la colonisation, mais aussi pendant le génocide.
Et pas la France. Merci beaucoup, Hélène Dumas. Sans ciel ni terre, votre ouvrage apparu à la découverte dans la collection À la source. Merci.
Merci à vous.
Un grand merci à toutes les équipe de la grande table des idées, c'est-à-dire Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez, la grande table culture avec Henri Leblanc et Oriane Delacroix, Anouk Delfino et Madeleine Martineux nous ont beaucoup aidé à préparer ces émissions. On les en remercie. Demain, une grande table critique avec Lucille Como. Moi, je vous donne rendez-vous samedi à 17h pour En français dans le texte avec Molière et avec une feuille, un stylo, puisque ce sera à partir de 17h30, comme chaque samedi, la grande dictée de Rachid Santaki.